Radio Immo et Capital proposent le grand rendez-vous de l'immobilier en partenariat avec Orpi. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain Lévy-Valency.
Eh bien voilà, bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes ici pour le grand rendez-vous de l'immobilier, 45e numéro, et nous sommes en 2023. Meilleurs vœux à toutes et à tous, prenez soin de vous, faites très attention. Cette année sera particulière, je gage qu'elle sera aussi singulière. On va tâcher tous les mois, comme d'habitude, ça fait déjà plus de 4 ans maintenant, qu'on vous donnera de l'information immobilière pour vos projets, que vous soyez investisseur particulier ou simplement fou de la pierre. Voilà, on est ravis d'être avec vous, avec les équipes de Capital et de Radio Immo. Et comme d'habitude, on va démarrer avec notre ami Guillaume Chazoulière, le rédacteur en chef de Capital.fr. Comment ça va, Guillaume ?
Bonne année.
Bonne année, Guillaume. Comment ça s'est passé ?
La fin d'année ?
Ouais.
Très bien pour moi.
Plutôt bien ?
Puis début d'année tonitruant, mais c'est une bonne chose, on ne va pas se plaindre.
Alors, comment on le fait ? C'est un peu nos marronniers de rentrée, Guillaume. C'est, on va parler d'investissement dans l'ancien, notamment.
Et là, cette année, on parle d'investissement locatif, parce qu'il y a des conditions d'achat qui bougent sur le crédit immobilier, on l'a vu. Il y a des réglementations qui bougent aussi, avec notamment les passoires thermiques, des nouvelles considérations à prendre en compte pour les bailleurs ou les investisseurs. Avec nous, pour en parler... Pour investir dans l'ancien, et d'ailleurs c'est le nom de sa société, Investir dans l'ancien, monsieur Lior Pardo, bonjour.
Bonjour, bonjour Guillaume, enchanté.
Bonjour Lior Pardo, Investir dans l'ancien, ça c'est malin ça, de faire un truc qui s'appelle Investir dans l'ancien, une société qui s'appelle Investir dans l'ancien, il fallait vraiment y penser. Bien évidemment, on va vous interviewer, bien sûr, Lior, vous nous expliquer quels sont les bons plans. Voilà, on est très affûté avec Guillaume sur l'investissement dans l'ancien. Et vous retrouverez, les amis, bien sûr, comme chaque mois, les experts, ça vous concerne, avec les questions que vous posez sur le questionnaire de Facebook, le Club des propriétaires, qui est animé d'ailleurs par Guillaume et les équipes de Capital.fr. C'est le 45e numéro, début 2023, une très belle année pour vous. On démarre tout de suite après ça.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
Rebonjour Lior Pardo.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va ?
Ça va très bien et vous ?
Vous avez fait une belle année ?
Ça va, on n'a pas à se plaindre.
D'accord, l'année 2022 fut exceptionnelle, bien évidemment. On sait que le volume de transactions frise les 1 100 000. On verra comment effectivement s'articule 2023. Vous êtes fondateur d'Investir dans l'Ancien, c'est le nom de cette entreprise éponyme que vous avez montée avec votre frère jumeau. Vous êtes un expert de l'investissement locatif et vous proposez des solutions aux investisseurs. C'est très à la mode en ce moment, on en reparlera tout à l'heure. Et bien sûr, on va parler aussi bien sûr d'actualité avec toujours la première question qui est posé par notre ami Guillaume Chazoulière. Guillaume.
Rebonjour, monsieur Lior Pardo. Alors, on va essayer d'être le plus concret possible et de conseiller les particuliers qui veulent investir dans l'ancien. Et la première question, c'est 2023 s'annonce comme une année charnière, sur fond d'abord de remontée des taux, les prix baissent, on a un peu paumé. Est-ce que vraiment dans ce contexte incertain, je n'oublie pas l'inflation, le pouvoir d'achat, est-il un peu délicat de se lancer dans l'investissement locatif ?
Alors très bonne question, c'est une question qui revient très souvent de la part de nos clients. On constate une remontée des taux évidemment chaque mois, donc évidemment c'est un stress pour tous les investisseurs qui souhaitent investir dans l'immobilier.
Ils ont 100 points de base d'augmentation, triplement des taux d'intérêt sur une année constante, janvier 2022. Janvier 2023.
Tout à fait. Les derniers, on était sur des taux sur 25 ans en moyenne à 1,20. Et aujourd'hui, on approche les 3% sur du 25 ans. Donc évidemment...
Même si le taux d'usure a augmenté, vous avez vu. Hein.
Tout à fait. Il vient de changer. C'est d'actualité. Donc évidemment, l'immobilier d'investissement est toujours intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, c'est le seul actif qui permet de résister à l'inflation. Donc, et d'avoir un effet de levier, même si les taux sont à 3%. Voilà, si on parle à des personnes qui ont investi déjà il y a plus de 10 ans, ils vous diront que finalement, les taux sont assez faibles parce qu'on était à 10% à l'époque. Mmh. Donc ça, c'est un point hyper important. Deuxièmement, on peut trouver toujours de la rentabilité. On a beaucoup de clients qui investissent dans des immeubles de rapport, dans des colocations, dans des entrepôts, dans les locaux commerciaux. Et là, il y a toujours de la rentabilité. Donc, on arrive à avoir des projets au-dessus de 7% de rentabilité. Et c'est là où on arrive à avoir l'autofinancement. Donc ça, c'est important. Il faut le rappeler. Finalement,
ça s'autofinance à partir de 7% de rentabilité.
Tout à fait. Et il faut se rappeler que bah, finalement, ça fait plus de charges. Finalement, si on a des crédits plus élevés, parce que les intérêts, bah, ça va faire des charges. Et moins d'imposition, si vous faites du LMNP, vous allez créer une SCI. Donc bon, pour l'investissement, si jamais c'est un jeu de calcul, tant qu'on arrive à avoir des bons produits et des rentabilités, bah, ça reste intéressant.
Alors justement, c'est la question qui tue, hein, bien évidemment, ou la question à un million. La rentabilité moyenne des investissements, je vous donne quelques chiffres et je vais vous allez me dire quelles sont vos statistiques. Rentabilité moyenne en France, elle est en moyenne de 3,5%. Est-ce que vous confirmez ?
Alors, bah, ça dépend d'où on va. Si alors, on va en cœur de ville.
Voilà, par rapport aux statistiques moyennes. Mais apparemment, vous avez des statistiques plus élevées.
Tout à fait.
Quel est le taux de rendement, franchement, moyen ? Ne me donnez pas un coup de fusil que vous avez fait à Lille ou
bien
à Lyon,
bien etc. Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Vous avez combien de biens en gestion aujourd'hui ?
Alors, on fait une centaine de transactions par an.
Alors, faites-moi une moyenne. Quel est le taux de rentabilité sur une centaine de transactions ?
Alors, je vais vous répondre par stratégie, parce que on va plus détailler, je pense que c'est plus important. Donc, on a la stratégie patrimoniale, donc vous avez du 3%. Là, c'est on ça. A la stat...
Quand vous dites stratégie patrimoniale ?
Qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est investir en cœur de ville. Donc, c'est-à-dire, vous avez un bien au cœur, Paris, tout simplement. Si vous allez au cœur de Lille, au cœur de Nantes,
Lyon,
toutes les grandes villes françaises.
D'accord.
Donc, un bien que se loue très rapidement et qui est assez facile.
3% en moyenne, et là, vous parlez de nu classique.
Nu ou du meublé, on va vraiment prendre un emplacement premium.
Ok.
Sur le meublé, c'est pas un peu plus élevé ?
Tout va dépendre, évidemment, de la zone.
Donc, on vous laisse développer.
Voilà. On passe sur la deuxième stratégie, équilibrée. Donc, équilibrée, on va sur un projet à 5-6%. Donc on n'est pas en hypercentre, mais on va toujours dans le centre des villes, mais on n'a pas le meilleur arrondissement de la ville ou la meilleure situation géographique. Par contre, il y a une tension locative parce qu'on est dans une grande ville française, ou bien il y a de la demande par des étudiants, ou des cadres, ou des employés. Donc il y a toujours de la demande. Et après, la troisième stratégie, forte rentabilité, qui est recherchée par un grand nombre d'investisseurs. Donc là, on va aller faire des colocations dans des zones pas forcément centre-ville. On va aller chercher des immeubles de rapport, où il y a plusieurs lots, donc il y aura un local commercial avec au-dessus des habitations. On peut faire aussi des bureaux, des locaux commerciaux, entrepôts. Et là, on ne va pas être dans l'hypercentre et on va chercher des projets où il y a plus de rentabilité. On parlera aussi des DPE, c'est important.
De rentabilité,
on va faire des travaux aussi.
Quand vous dites de rentabilité et de volatilité aussi.
Exactement, exactement. Donc on n'est pas en cœur de ville, mais c'est là où on va pouvoir créer de la valeur et avoir plus de rentabilité, recherché par beaucoup d'investisseurs.
Et donc plus de risques.
Plus de risques, mais on va le maîtriser évidemment. On va mettre des loyers de marché ou un peu plus faibles, faire du meublé pour louer à des étudiants et prendre en compte la vacance locative, donc évidemment le turnover pour évidemment la colocation. Donc ça, c'est important.
Alors, on va rentrer effectivement le risque, marché par marché. Malgré tout, des précautions restent à prendre dans certaines villes où les prix, on le sait, ont beaucoup augmenté après le Covid. Et où on sait que ça commence à baisser. Alors on peut se poser la question, dans ces villes, est-ce qu'il faut commencer à investir alors que ça va baisser ? Quels sont ces marchés à risque ? Est-ce qu'il y en a que vous avez identifié, vous, peut-être des grandes villes où ça va trop monter, où on va payer cher et l'investissement qu'on va faire aujourd'hui, on risque d'avoir une baisse de cote.
Alors, c'est une bonne question, Guillaume.
Je pose que des bonnes questions.
J'essaye.
Oui. C'est d'actualité.
Alors, c'est les journalistes, en fait.
Évidemment.
Marché, ça pourrait craquer ou baisser, ou attention.
Il y a eu des villes à la mode, je dirais, avec le Covid. Il y a beaucoup de gens qui sont partis s'installer à Marseille, par exemple.
Ouais, ou à Bordeaux.
Bordeaux. Alors, ça, c'était encore avant, mais c'est vrai que c'est encore à la mode. Il y a certains quartiers prisés par des Parisiens et qui ont acheté hyper rapidement et qui ont fait monter la cote de certaines zones. Je pense par exemple à Marseille, 7e arrondissement, qui est très recherché par beaucoup de personnes pour au-delà de l'investissement locatif, parce que c'est de la résidence principale. Donc là, on parle vraiment d'un autre marché. Et après, il y a le marché d'investissement locatif, donc ce qui nous concerne aujourd'hui. Et là, c'est des quartiers où il y a eu des investissements massifs grâce au taux qu'on a connu à 1%, où finalement l'argent le coût de l'argent était faible. Donc il y a beaucoup d'argent.
C'est-à-dire que Marseille, on est monté trop haut et ça peut baisser, c'est ça ?
Ça dépend des quartiers, en fait.
Il y a des quartiers où aujourd'hui...
Et comme dans toutes les villes, en fait, ça dépend où vous allez. Donc c'est intéressant d'acheter finalement toujours des prix bas. Donc je conseille aux personnes qui souhaitent faire de l'investissement locatif d'acheter en dessous de 3000 euros, 4000 euros du mètre carré. Ça, vous allez avoir de la rentabilité. Et ensuite, il y a une opportunité, on va parler en deuxième partie, c'est les passoires énergétiques où là, vous pouvez finalement négocier parce que si c'est mal classé, bah, vous pouvez négocier parce que bah, finalement, il y a des investisseurs qui ne font pas forcément point, ouais. les...
Marseille, il y a d'autres marchés ou les quartiers, attention Bordeaux.
Bordeaux, très effectivement.
Vigilant sur le prix qu'on va payer.
Si vous achetez bah, voilà, en hypercentre de Bordeaux à 8000 euros du mètre, vous prenez plus de risques bah, parce que bah, le prix a déjà bien augmenté. Ouais. Alors si vous allez voilà, dans des quartiers un peu moins recherchés, proche de la gare par exemple, où là vous pouvez acheter moins cher. Et là, ben, vous aurez plus de chances de faire de la rentabilité, d'avoir moins de risques en cas de baisse de l'immobilier.
Question complémentaire, c'est que, effectivement, vous l'avez dit là, sur les régions qui ont bénéficié du Covid, hein, vous avez on parlé de Bordeaux, de Lyon, des grandes métropoles. Est-ce qu'il y a des marchés porteurs à terme? Est-ce que, par exemple, quand on voit les villes moyennes et l'essor des villes moyennes, même si ça se tasse un peu,
oui.
qu'on voit que, par exemple, 2023, effectivement, alors ça dépend des réseaux immobiliers, mais on prévoit une baisse moyenne de 5 à 6% sur l'année courante.
Oui.
Et un effondrement du volume de transactions, parce que si on prend les chiffres du premier, les statistiques janvier, on estime effectivement qu'il y aura à peu près 300 000 transactions de moins cette année. Ce qui est tout à fait probable, hein, ce qui est déjà un très bon chiffre. Hein, parce qu'en 2017, quand on faisait 800 000 transactions, c'était déjà très bon. Question, les marchés porteurs, et qui continueront à être porteurs, voilà, on est investisseur, vous me dites où ? Est-ce que... j'ai bien compris, vous avez une stratégie patrimoniale, mais si je vous dis, par exemple, des villes moyennes comme Angers, Dreux, Rouen, Roubaix...
Vous parliez de Lille aussi, tout à l'heure.
Lille,
allez-y, on veut vous entendre.
Lille, c'est une grande métropole.
Faut
Alors, tout va dépendre de votre stratégie d'investissement. Si vous voulez la forte rentabilité, comme beaucoup de clients, plus de 7%, Roubaix, c'est un marché très intéressant, parce que vous avez des prix au mètre carré assez faibles.
Mais est-ce qu'on est sûr de louer à Roubaix, par exemple?
Tout va dépendre où vous allez, évidemment. Oui. Donc, c'est proche, évidemment, d'un métro.
Bien
d'un,
sûr.
Une demande locative.
Tout à fait. Il y a beaucoup d'étudiants, en fait, qui vont chercher ces zones.
Mais si je
passe par
investir par l'ancien pour vous, voilà, je vous dis, monsieur Pardo, trouvez-moi une bonne rentabilité, un peu, même si c'est un peu volatile.
On a déjà fait à Roubaix très fortes rentabilités. Après, ce n'était pas les meilleurs quartiers, évidemment,
non,
de la
ville. On a des bons exemples, là, des marchés porteurs.
On a des exemples, tout à fait. Si vous allez, évidemment, dans le nord de la France, tout ce qui est région lilloise, vous avez des très bons projets. Donc Lille, Tourcoing, Roubaix, même toutes les banlieues autour de Lille. Okay. Vous avez un ensemble de biens qui sont très intéressants parce que le prix au mètre carré est faible.
Marc-en-Barœul, Ouescale, Mons.
Fives, etc. Bon, on peut en énumérer beaucoup.
D'accord.
Et là, vous avez des biens en dessous de 3000 euros. Donc, vous pouvez acheter des maisons. On a fait des maisons donc, on a fait beaucoup de travaux. Vous pouvez faire des colocations. Vous avez des maisons en dessous de 200 000 euros. Donc ça, c'est intéressant. Des petits immeubles de rapport. Entre 150 000 et 300 000 euros.
Sur notre marché, parce que la France est grande et on ne va pas tous investir à Lille.
Non, on peut aller.
Les exemples de marchés porteurs sont un peu égrenés sur toute la France.
Bon, on peut changer évidemment de marché. Voilà, il y a Marseille. Vous pouvez acheter.
Marseille, on a dit que c'était pas bon tout à l'heure.
Ça dépend où vous allez.
Ouais, non, mais c'est qu'il faut.
En fait, ça dépend.
Un peu vraiment.
En fait, ça dépend finalement.
En fait, c'est vraiment important.
À la fois des quartiers,
mais est-ce qu'il y a des villes porteuses vraiment où vous conseillez?
On conseille pour nos clients d'investir aussi à Lyon, même si le marché a encore bien grimpé ces dernières années.
C'est cher, Lyon. Hein.
En fait, si vous n'avez pas dans l'île-centre, dans
Lyon
les quartiers
centre.
Périphériques.
D'accord, dans la périphérie de Lyon.
Ou dans les quartiers hors sud-centre, par exemple, dans le 8e, vous avez encore des prix accessibles. Et là, vous pouvez encore faire des coûts intéressants,
d'accord.
aussi bien sur tout type de classe d'actifs. Vous pouvez aller à Avignon. On a fait des projets là-bas.
Une demande locative.
Ouais, on a même fait du Airbnb là-bas et ça marche bien.
Airbnb pendant le festival, oui, mais.
Ouais, exactement.
Mais non, mais de la location classique.
Il y a les Alpilles,
ça fonctionne.
Oui, tout à fait, ça marche bien.
On est
bien.
À côté des Alpilles, ça plaît beaucoup aux touristes, Avignon.
En fait, partout, évidemment, où vous avez des touristes, donc même par exemple Nice, vous pouvez continuer à faire
Nice, c'est très
bon. L'investissement.
Alors, attention, on était sur l'investissement longue durée là.
Bien sûr.
On va rentrer dans le détail, mais.
Alors, du LMNP marche très bien sur Nice, par exemple. Donc, on a très bien fait des colocations à Nice. On a fait aussi des appartements, des studios, des deux pièces. Ça marche très bien.
Et pour répondre à la question de Sylvain, les villes moyennes, donc...
Petites villes.
Les petites villes, on a été...
Dreux, Rouen.
Dreux, on n'a pas fait d'investissement. Rouen, ça marche très bien. Vous pouvez très bien acheter dans l'hypercentre de Rouen, aux rives gauches. Donc, y a...
Alors, justement, vous parliez de Lyon. Mettons la grande métropole de Lyon, mais par exemple, Villefranche-sur-Saône... qui est à côté, à une heure. Villefontaine, où il y a le grand outlet, est-ce que c'est les villes aujourd'hui qui dynamisent ? Est-ce que les axes autoroutiers permettent de le faire aujourd'hui ?
Tout à fait. Si on est proche d'une autoroute, si vous avez des transports en commun, ben ça se fout très bien. Et vous pouvez faire du LMNP. C'est très recherché par des étudiants ou des jeunes cadres qui vont pouvoir acheter ce type de bien.
Quand on passe par vos services, est-ce que vous vous occupez aussi de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour les travaux ? Parce que les investisseurs, vous le savez, ils n'ont pas beaucoup de temps. Je sais que dans votre modèle économique, vous accompagnez les investisseurs de A jusqu'à Z. Est-ce que ça passe aussi par ça ?
Tout à fait. Archer en Chien s'occupe des projets de A à Z, donc travaille avec des artisans locaux partout en France. Donc évidemment, si on a un projet avec des travaux prévus, aussi bien un rafraîchissement ou des travaux conséquents, on travaille avec des artisans locaux, donc c'est prévu dans le package.
Parfait.
Alors, au-delà de, on a vu un peu les marchés à risque, les marchés porteurs. Il peut y avoir des marchés porteurs, des marchés à risque dans la même ville, c'est toute une question de quartier. Notamment, vous avez cité Marseille, mais il faut vraiment être clair parce que sinon on ne comprend pas bien pour l'auditeur. Quelles sont les règles d'usage classiques, là vraiment les conseils que vous donnez pour s'assurer qu'il y a une demande locative au rendez-vous ?
Très bonne question, évidemment.
Parce que selon les villes, les quartiers, ça change. Là, vraiment, comment vous nous guidez ?
Alors c'est important évidemment d'étudier la ville, donc déjà voir s'il y a une vraie demande locative, donc une tension locative.
Ça comment peut on vérifie être, ça
s'il y a des étudiants, évidemment. C'est un bassin d'emploi, c'est bien connecté avec d'autres villes. Et là, évidemment, si vous avez ces conditions, proche d'un métro, c'est important. Si vous êtes dans une grande ville, moins de 10 minutes, là, vous pouvez louer rapidement. Après, si vous sortez de ces champs-là, vous allez avoir plus de vacances locatives. Évidemment, ça va baisser la rentabilité.
D'accord. Et ça, on peut le trouver aussi en agglomération des grandes villes. Comme vous disiez, Lyon, il y a possibilité, justement.
Tout à fait.
Lille, il y a la possibilité d'avoir ça.
Tout à fait.
Il faut viser un prix en dessous du... Alors, bon prix, c'est quoi ?
Sous la forte rentabilité, en dessous de 3 000, 4 000. Et après, du patrimonial, donc cœur de ville. Là, vous allez avoir des prix au-dessus de 6 000
euros. Quand
vous
dites patrimonial, juste pour que ça parle à tout le monde... Ouais. C'est de la conservation à la fois de l'actif, de l'investissement qu'on fait, avec un taux de rentabilité faible. Par contre, on est sûr de retrouver son investissement, voire même une petite croissance.
Exactement. En fait, vous avez évidemment moins de vacances locatives. Donc, vous allez louer hyper rapidement.
Et en termes de valeur, ça ne risque pas de s'effondrer.
Ce qui est important, c'est d'acheter pas trop cher, en fait.
Voilà.
Donc, ça, le risque, si vous achetez
mais
très cher.
C'est un peu la martingale dans l'immobilier. C'est toujours d'essayer d'acheter au moins cher.
Tout à fait.
Alors, d'un point de vue, on va dire systémique, on vit dans un système de... aujourd'hui qui accumule les crises, une chasse l'autre, c'est ce qu'on appelle la permacrise. on le voit aujourd'hui, crise du pouvoir d'achat, précarité à l'emploi, d'ailleurs on appelle ça maintenant la génération précaria, hausse des prix, inflation qui n'arrange pas du tout les choses, notamment pour les classes moyennes et les plus exposées. Et on sait que le problème numéro un pour ces classes-là, c'est le logement. Il ne faut pas s'y tromper. Il faut beaucoup de prudence aujourd'hui quand on investit sur ce type de classe d'actifs dans un contexte de crise. Quel conseil vous donneriez aux bailleurs compte tenu effectivement des coûts de l'énergie, des coûts des matières premières parce que c'est bien d'acheter effectivement, vous avez raison, un appart par exemple classé étiquette F ou G. Donc impropre à la location, à partir de janvier 2023.
Tout à fait.
Mais encore faut-il faire un pari, effectivement, sur le volume de transformation, le financement, etc. Quel conseil avisé, concret, vous donner aux bailleurs ?
Alors déjà, s'assurer qu'on a de bloquer un budget, donc pour pouvoir bien chasser le bien.
D'accord.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas connaissance de leur budget, donc ils ne savent pas vraiment ce qu'ils peuvent chercher. Mmh. Et ensuite, pour rassurer l'agent immobilier ou le propriétaire pour faire une offre, premièrement. Ensuite, vous allez...
Point numéro un, évaluer votre budget, max...
Capacité d'emprunt, pour savoir maximum...
Quitte à aller faire une simulation avec son banquier.
Bien sûr, exactement. Banquier, courtier, ou bien une entreprise comme la nôtre qui peut
point numéro
déjà
évaluation du budget.
Capacité d'emprunt à évaluer, ça c'est hyper important, c'est la base. Ensuite, viser des villes. Donc soit vous faites conseiller ou soit vous avez des villes où vous voulez investir. Vous pouvez aussi vous faire conseil, tout à fait. Et après, prendre en compte la lettre énergétique. Donc ça, c'est un point hyper important aujourd'hui. Tout le monde fait attention à ça. Et c'est la première question qui est posée aujourd'hui. Alors qu'il y a un an, personne ne regardait la note énergétique. Donc là, c'est un point vraiment important. L'État a prévu de faire la chasse, évidemment, aux passoires énergétiques. Donc, c'est des lettres, les moins bien classées, FG. Il y a un calendrier très précis jusqu'à 2034.
C'est un autre sujet après, ça. La lettre énergétique, on développera
en termes de conseils, donc
Donc, les conseils...
Évaluer l'emprunt.
Deuxièmement, déterminer
vérifier
une zone.
La lettre énergétique, on va en parler.
Et après, ben, savoir qu'est-ce qu'on veut comme rentabilité. Comment on va pouvoir mieux chasser et se rendre compte de quel projet on va acheter.
Et vous dites aux clients qu'en fonction du capacité d'emprunt et de la zone, il y a plus d'exposition ou moins au risque.
Exactement.
D'accord.
Exactement.
D'accord.
Et une fois qu'on a investi en tant que bailleur, quelle prudence j'ai par rapport au choix de mon locataire qui, lui, va être impacté par le pouvoir d'achat aussi.
Tout à fait.
Comment
tout à fait.
Loyer pour être sûr que ça reste et que ça tourne.
Tout à fait. Bah alors
et
nous,
je pas m'exposer à trop d'impayés.
C'est évidemment, c'est primordial. Ben, c'est le risque d'investissement locatif. Ouais. Donc, ce qui est important, c'est mettre un prix de marché. Si vous avez un prix trop élevé, vous risquez d'avoir beaucoup de turnover. Donc finalement, vous allez baisser votre rentabilité.
Ah bah oui, mais oui.
Donc ça, c'est dommage.
Il vaut mieux baisser un loyer et avoir une vraie stabilité
tout à fait.
Plutôt que de spéculer pour rien. Quoi.
Tout à fait.
Et c'est bien, plus, c'est un bon conseil, ça, Goudanier.
Je conseille, par exemple, déjà aussi d'aller voir qu'est-ce qu'il y a sur le marché. Donc voilà, vous achetez à Lyon Centre, par exemple.
D'accord.
Vous allez faire un tour sur toutes les plateformes possibles.
Il n'y a pas des observatoires qui permettent d'avoir des moyennes de marché
Si, vous avez des sites pour se rendre compte du prix. Okay. Mais si c'est intéressant, en fait, la comparaison.
Il y en a un qui est référence aujourd'hui.
Vous avez Meilleur Agent, qui est très bien.
Ouais.
Vous avez aussi Se Loger pour se rendre
l'État
compte.
L'État a monté un observatoire public des loyers aussi.
Il y a l'OLAP, il y a aussi l'observatoire Clameur, voilà. qui intègre, Clameur c'est très bien parce que ça n'intègre que les baux enregistrés, 1,5 million de baux par an.
On va bien avancer. Se renseigner sur les loyers. Juste un point de
vue
très
important, il faut conclure cette première partie.
La fiscalité.
Oui, bien sûr.
Vraiment,
très
simplement, parce qu'il y a le nu, il y a le meublé, il y a la possibilité de faire du Airbnb, on l'a dit, mais ça c'est à la marge, c'est pas vraiment notre cœur, notre sujet.
Oui.
Vous, en deux mots, le meilleur...
Oui, en deux mots, c'est-à-dire en une minute, parce que il a le temps de conclure, mais ça, c'est, il nous fait le coup à chaque fois.
Le choix.
D'accord,
on va pas rentrer dans le détail du meublé, le détail machin, mais le choix aujourd'hui.
Primo-investisseur.
Il y a le déficit foncier qui était doublé, je crois.
Alors, je pense déjà au primo-investisseur, qui veut le démarrer.
Ouais.
Le
premier mieux, investisseur.
Premier investisseur. Donc, vous démarrez dans l'immobilier, on vous conseille de faire du LMNP.
Okay.
Pourquoi ? C'est un régime fiscal qui va se mettre directement dans votre avis d'imposition, pas d'une société. Location meublée non professionnelle. Okay. Faut pas dépasser 23 000 euros ou 50% de vos revenus. Donc ça, c'est la règle pour pouvoir investir en LMNP. Et c'est assez simple. Et ça coûte, c'est pas très cher. Vous pouvez même le faire vous-même. Si vous
avantage,
avez...
Pourquoi je ferais ça ?
Ça permet de pas payer d'imposition sur votre bien. Vous allez amortir le bien. Et aussi amortir les meubles, amortir tous les frais annexes, frais de notaire, frais d'agence, et ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Deuxième option, vous allez sur de la location nue, vous pouvez créer une société type SCI, et après, en fonction du bien, une SAS, ou se faire conseiller en fonction du bien. Et pareil, ça va permettre d'amortir le bien sur plusieurs années et pas se faire imposer sur les loyers.
Ça dépend du régime, IS ou IR.
Alors ça, on peut encore creuser.
Qu'on comprenne bien, vous créez une SCI, il y a deux régimes fiscaux, il y a l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Et la permutation de l'un à l'autre n'est possible qu'une seule fois juridiquement, vous le savez.
Tout à fait.
Et donc, et c'est bon ?
On m'a demandé en une minute.
Voilà, bravo, vous avez été très bon. Je récapitule. Donc, la capacité d'emprunt, la zone et les types de loyers. Et enfin, le véhicule qui permet d'investir. C'est une bonne solution. Merci, Lior Pardo, pour rester avec nous. On va parler maintenant, effectivement, aussi des nouvelles règles pour l'investissement locatif, notamment les passoires thermiques. On va vous en parler dans la deuxième partie de l'émission. Et pour l'heure, c'est nos conseils et nos experts, comme chaque mois, ça vous concerne. On se retrouve tout de suite.
Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant.
Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
Eh bien voilà les amis, comme chaque mois, ça vous concerne, c'est la première partie avec notre expert, c'est notre avocate préférée. Elle est déjà sur le plateau, on lui souhaite une très bonne année, c'est Ganaëlle Souzens. Bonjour Ganaëlle.
Merci, bonjour.
Bonne année.
Bonne année à vous aussi.
J'espère que ça a bien démarré pour vous. Et d'ailleurs, ça va démarrer avec le fusil des questions techniques qu'on nous pose sur le Club des Proprios par l'ami Vincent. Bonne année, Vincent.
Et bonne année à vous.
Voilà, bonne année. Comment ça s'est passé?
Très bien.
Très en forme, l'ami Vincent.
Oui, il faut. Et notre première experte est donc avocate spécialisée en droit immo, avec une question pour commencer de Eric de Paris qui nous écrit « Sa copropriété n'a pas eu le temps d'organiser son AG annuel l'année passée. Le syndic a prévu de l'organiser en ce début d'année, est-ce que c'est légal ?»
On décale donc.
Normalement non, il doit y avoir une AG chaque année qui valide les comptes de l'exercice précédent. Et elle doit être normalement convoquée dans les 6 mois qui suivent la fin de l'exercice. Concrètement, l'exercice se clôture au 31 décembre, on convoque l'AG dans les 6 mois. Maintenant, si on ne le fait pas, il ne va pas se passer grand-chose. Il n'y a pas de sanctions, le syndicat de copropriétaires ne va pas être dissous, l'immeuble ne va pas s'effondrer, il n'y aura pas de conséquences. La seule chose sur laquelle il faut être vigilant, c'est est-ce que le syndic est toujours le syndic ? Parce que si le syndic a été désigné pour toute l'année 2022, par exemple, en janvier 2023, allez, il n'est plus syndic. Oui. Et donc, il n'a plus qualité pour convoquer l'AG. Donc, c'est le seul point sur lequel il faut être vigilant.
Donc, il faut vérifier ça, mais sinon,
à
ça
éviter,
devrait bien
quoi,
se passer. Ouais, à éviter quand même. Voilà pour Eric. Maintenant, une autre question. Céline. Attention, Céline met en location un appartement dont elle est propriétaire. Elle a appris récemment par des artisans qui sont intervenus dans son appartement qu'il était devenu insalubre. Les raisons sont multiples, manque d'entretien, suroccupation de l'appartement. Les locataires sont 6 personnes dans 66 mètres carrés. À cela s'ajoute un chat et un furet, c'est très précis hein, les informations de Céline. Le ménage n'est jamais fait, les linges sales traînent par terre, l'appartement est envahi par des mouches. Bref, en plus ce sont des gros fumeurs et peintures ont jauni. C'est compliqué, on imagine l'état émotionnel de Céline. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle nous précise que ses locataires, ils paient leur loyer normalement.
Tu sais que c'est un sujet hyper récurrent.
Oui.
Sans qu'il y a du vécu là.
Il y a du vécu. Ouais.
Et ils payent le loyer. Ouais,
ouais, on n'a pas tous les mêmes critères d'hygiène, de confort, de qualité de vie.
Horrible, hein.
Ouais, c'est vrai. Alors déjà, les locataires, ils sont chez eux. C'est leur domicile. Donc le propriétaire n'a pas un accès, aucun accès ne lui est dû au domicile, et les gens vivent comme ils veulent. Si c'est leur mode de vie, c'est leur mode de vie. Le problème se résoudra au moment de l'état des lieux de sortie. À ce moment-là, la propriétaire bailleur et les locataires feront un état des lieux de sortie. Ils compareront l'état des lieux d'entrée et de sortie. Et les désordres, les réparations qui seront liées au mauvais entretien de l'immeuble, elles seront à la charge des locataires. Mais c'est très compliqué en cours de bail, spécialement si le loyer est payé, d'intervenir. Et alors le locataire a l'obligation d'entretenir correctement le bien, de l'occuper paisiblement. Donc si ce mauvais entretien, ces conditions d'occupation un peu originales on va dire, créent des nuisances par exemple au voisinage, alors on parle des mouches, ça peut être le cas, je pense à des cafards, s'il y a de la nourriture qui traîne, ça peut attirer les cafards, donc ça peut avoir des conséquences sur le voisinage.
Oui,
on peut imaginer des choses terribles.
Ouais, jusqu'au bout.
Ouais.
C'est des nuisances.
Voilà, là, on pourrait essayer d'obtenir la résiliation du bail sur ce terrain-là. C'est-à-dire que, de dire que les conditions ne sont pas respectées et que ça a des conséquences.
Mais comment on fait pour ça? Je veux dire, il faut faire venir un expert.
Il faut effectivement des attestations des voisins.
C'est
on
ça,
peut
hein.
demander la désignation d'un expert judiciaire pour attester que les cafards viennent bien.
Il aura le droit de venir sur le...
Si l'expert judiciaire, oui. Parce que le tribunal l'aura désigné et il aura été désigné au contradictoire
et
des
locataires. Et le locataire est obligé de lui ouvrir la porte.
Ah oui, c'est le juge qui désigne un expert.
Et s'il ne veut pas lui ouvrir la porte, est-ce qu'on peut recourir à la force publique?
On peut obtenir une injonction par le juge civil. Mais c'est compliqué. Ça peut arriver, je me souviens d'une affaire de puce de lit, puisqu'on est dans les... dans les nuisibles. Où un locataire, effectivement, à cause du mauvais entretien, de mauvaise hygiène, surtout, il n'avait pas mis en place les mesures qui ont été préconisées pour arrêter l'infestation par les puces de lit. Donc là, on a pu par ce biais intervenir. Mais c'est une procédure lourde, complexe. Donc, je comprends ses préoccupations, mais elles ne me semblent pas suffisantes pour justifier
en tout cas,
une action.
Si ça ne touche pas une tierce personne ou le syndic ou que ça ne fuit pas en dessous, là, elle ne pourra pas forcément intervenir. Notre chère Céline, voilà. Non. Bon, ça se fera à l'état de lieu, d'où l'importance de bien faire l'état des lieux d'entrée.
Parce que vous avez raison, en fait, chacun fait ce qu'il veut, mais ils sont tenus de restituer légalement le bien dans l'état dans lequel ils l'ont trouvé.
Oui.
Donc c'est pas parce qu'ils fument et que c'est pourri à l'intérieur qu'ils le rendront pas bien, propre, à la sortie. Vous avez raison.
Complètement, ils peuvent remettre un coup de peinture ou bien le nettoyer avant de partir, au moins enlever leur linge sale et leurs animaux.
Le furet partira.
Merci beaucoup pour vos réponses, Gana et Sassins. Vous posez vos questions, vous, sur le club Facebook, le club des proprios, le groupe Facebook, le club des proprios, groupe géré par Capital, et on les pose aux experts toutes les semaines, tous les mois, pardon. Et Ganaël, on vous retrouve sur ganaelsoussinsavocat.com.
Voilà. Oui, tout à fait. Je vais même demander à ce qu'on mette l'adresse de l'URL du cabinet de notre ami Ganaël. Merci Vincent, merci Ganaël Soussins. On vous souhaite une très très belle année 2023.
Aussi.
Et on part maintenant dans les régions, puisque comme chaque mois, on fait un focus territoire avec les réseaux et le réseau en particulier avec nos amis d'Orpi France.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, Orpi Territoire avec Orpi.
Oui, rebonjour. Donc, comme chaque mois, nous partons en région avec un focus immobilier sur un territoire particulier. Pour ce mois de janvier 2023, nous partons à La Rochelle avec Mickaël Gauduchon, président du GE Orpi, La Rochelle et Île-de-Ré. Bonjour.
Bonjour. Bienvenue à La Rochelle.
Merci de nous accueillir. Vous êtes implanté sur le vieux port de La Rochelle depuis plus de 50 ans. Donc, une bonne antériorité, une bonne vision du marché. Alors, justement, comment a évolué le marché de La Rochelle sur 2022 et sur 2023? Qu'est-ce qu'on entrevoit? On sait que les prix ont énormément gonflé. Où en est-on?
Où en sommes-nous? Eh bien, effectivement, comme vous l'avez si justement dit, le marché a explosé ces trois dernières années, comme beaucoup de villes côtières, avec un afflux post-Covid significatif. La Rochelle est une ville qui particulièrement a attiré beaucoup de monde parce que c'est une ville qui est géographiquement très bien située. On est en bord de mer, bien entendu. On a un bassin d'emploi, un bassin universitaire aussi. Donc, ce n'est pas qu'une station balnéaire. C'est aussi une ville qui vit l'année, toute l'année, grâce à ses étudiants aussi. Donc, c'est vrai que par rapport à d'autres villes de bord de mer, en tout cas de l'arc atlantique, La Rochelle bénéficie quand même d'une position, une situation très intéressante, la plaçant aussi en TGV assez proche des grandes villes, que ce soit de Bordeaux, que ce soit de Paris et autres.
Et alors, justement, on atterrit sur un prix moyen de combien aujourd'hui à La Rochelle?
Allez, on va dire qu'on est autour de 5 000 euros, même si on peut avoir des exceptions. C'est une moyenne.
5 000 euros en moyenne, donc on commence à atteindre des prix assez élevés pour une ville comme La Rochelle. Une tendance qui évolue comment? On est toujours en train de grimper?
Alors, on n'est plus en train de grimper. En tout cas, ça, c'est plutôt rassurant pour nos amis investisseurs ou acquéreurs. On est sur un marché qui est plutôt en voie de stabilisation. On est en train de suivre un petit peu la tendance nationale qu'on observe dans les GE de nos confrères du réseau Orpi. On voit qu'on a une clientèle qui devient un peu plus exigeante et surtout qui, du fait du contexte économique national dont on a parlé longuement sur les taux d'intérêt, du fait aussi du contexte plutôt...
Il y a une réalité économique qui fait que par rapport au prix...
On a des gens qui aujourd'hui sont beaucoup plus méfiants sur des prix qui peuvent de temps en temps paraître en tout cas trop élevés. Donc une clientèle plus attentiste qui va effectivement... négocier peut-être un peu plus les prix. Donc, on a une tendance à la baisse du volume de transactions, de manière générale, environ 11% sur l'année. Une baisse du volume de transactions, mais des prix qui se stabilisent. On va dire que la hausse incroyable que nous connaissions marque une sorte de pause et qu'on a plutôt une stabilisation des prix.
Donc, possibilité de marge de négociation supplémentaire donc pour les acheteurs en 2023.
C'est ça qu'on peut prévoir. C'est ce que nous constatons sur fin 2022. D'accord. Sur l'automne 2022, c'est clairement des marges de négociation qui sont aujourd'hui devenues possibles. Et surtout des propriétaires qui, certes, sont toujours opportunistes et ont raison de l'être, mais aussi au fait de la réalité économique
la
du
réalité,
pays,
donc,
qui sont plus ouverts, en tout cas, à entendre certaines propositions de prix quand celles-ci restent raisonnables.
Alors, moi, si je suis acheteur à La Rochelle, est-ce que, donc je sais que je vais avoir des marges de quel ordre d'ailleurs, 10-15% peut-être, peut-être pas aussi.
Très haut, aléatoire.
C'est très aléatoire.
Tout dépend du bien. Voilà, exactement.
Mais est-ce qu'il y a déjà, d'ores et déjà, aussi des coins, des quartiers où il y a, qui offrent des opportunités qui n'ont pas forcément monté, qui pourraient se valoriser
Alors, pour être synthétique, tout a monté. Donc, que ce soit La Rochelle, centre et ses alentours. Par effet de ricochet, finalement, La Rochelle était devenue chère. Les secteurs de première, deuxième, troisième couronne le sont devenus aussi, en tout cas par rapport à ce qu'il était précédemment. Maintenant, cette tendance que nous évoquions il y a quelques instants nous laisse à penser que, notamment en ce qui concerne le marché locatif, en tout cas le marché d'investissement, je pense que nous pensons que certaines opportunités vont pouvoir se présenter, puisque cette clientèle post-Covid qui a s'est ruée, on va dire, sur les petites surfaces dès la fin du premier confinement, a été, on va dire, rassasiée. Et nous constatons aujourd'hui que sur le marché des petites surfaces, nous recommençons à faire du stock, ce qui, mécaniquement, on a plus d'offres, donc forcément plus de concurrence entre les biens et effectivement peut-être des prix potentiellement en baisse à venir.
Il y a des reventes de petites surfaces, des remises en vente.
On commence effectivement à le voir. Alors, plusieurs raisons. La première est que la rénovation énergétique, qui effectivement est un sujet, un vrai sujet, qui revient beaucoup aussi à nos oreilles de par nos
clients. Oui, il y a un centre-ville ancien avec des passoires thermiques, j'imagine. Ouais,
c'est exactement le cas. Donc, pas mal de propriétaires bailleurs qui ne souhaiteront pas réaliser des travaux par manque de moyens, de possibilités ou d'envie, en tout cas, qui vont devoir remettre à la vente des biens classés F ou G, par exemple, qui seront donc interdits à la location. Donc ça, on peut entrevoir un afflux de biens
sur le marché, avec des opportunités à saisir peut-être, et moyennant financement via des aides, MaPrimeRénov, il y a des opportunités pour les investisseurs qui seraient intéressés de rénover des passoires.
Il y aurait des opportunités, et en plus qui seraient couplées avec une mesure alors qui est très locale, dont on a déjà entendu parler sur Biarritz notamment, mais on a une municipalité qui a pris en main le dossier justement de la disponibilité des logements pour les étudiants, des logements du locatif étudiant, et qui fait la guerre au Airbnb, qui est aujourd'hui très important sur une ville comme La Rochelle.
Oui.
Donc, l'idée aujourd'hui, elle est surtout de rendre impossible, par exemple, à la location, en tout cas, à la location à l'année, dédiée, meublée, tous les logements inférieurs à une certaine surface, c'est-à-dire 35 mètres carrés. Mmh. Donc, c'est aussi un événement, en tout cas un élément qui va nous permettre, je pense, de voir les projets de certains propriétaires bailleurs être modifiés et peut-être
remis sur le marché longue durée. Ouais. Avec quelle demande locative, si je vais là-dessus? Il y a beaucoup de locataires, parce que si je fais de l'investissement à La Rochelle, et dans le Glo.
En fait, on a une très forte demande, très très forte demande, et du coup une pénurie de biens locatifs. On va avoir tous les profils, c'est-à-dire que, bien entendu, c'est une ville étudiante, donc nous aurons des profils étudiants tous les ans en location meublée ou vide, de juin à septembre, voire de septembre à juin, pardon. On a cette clientèle-là qui on a une très forte demande, il manque pas loin de 3 000 logements pour les étudiants, donc oui, il y a une vraie demande à ce niveau-là, donc ça peut être très intéressant de le faire. Qui peut être couplé, on va dire, avec une location ensuite saisonnière, puisque ça, la nouvelle réglementation va pouvoir le permettre, c'est-à-dire sur les 2 mois d'été, loué à la semaine, ce sera une possibilité. Et là, si les prix viennent à baisser, comme nous l'espérons, en tout cas sur ces surfaces-là, on pourra avoir des taux de rentabilité qui redeviendront intéressants, et on ne sera plus seulement dans un investissement patrimonial. On aura aussi vraiment des opportunités de rentabilité. Après, outre les étudiants, des actifs, des gens, une recherche aussi en maison individuelle qui est très forte. Donc, une grosse pénurie sur la maison individuelle. Donc, il y a des choses à faire.
Très bien. Pour terminer, on parle des investisseurs locatifs qui peuvent venir de la Rochelle. Mais si je reprends sur la résidence principale, et on a vu un marché qui s'essouffle, qui est gonflé, c'est fini. Les Parisiens qui viennent s'installer à La Rochelle, marché de... il y a encore une demande venue de l'extérieur. Qui sont les acheteurs aujourd'hui de La Rochelle, les acheteurs qui veulent de la résidence principale, qui sont-ils aujourd'hui ?
Résidence principale, on a vraiment un spectre extrêmement large. Donc effectivement, toujours cette clientèle parisienne qui
est chère, mais malgré tout, les prix s'essoufflent, ça monte plus.
Ça monte plus, parce que cette clientèle parisienne aussi s'est rendu compte que les prix commençaient, pour certains biens, à ressembler un petit peu à ce qu'on voyait en région parisienne. Donc voilà, des acquéreurs aussi qui font attention. Donc des gens qui viennent des grandes villes, on a beaucoup de gens en local aussi, puisque La Rochelle est une ville dans laquelle on est bien, donc on veut y rester. On a vraiment tous les profils, des profils aussi de futurs retraités, jeunes retraités qui veulent passer de belles années sous le soleil charentais et les pieds dans l'eau. Donc vraiment une clientèle extrêmement, extrêmement large, c'est ce qui fait justement la richesse de ce marché et le dynamisme en fait de notre marché immobilier, c'est que c'est une ville qui va attirer en fait énormément de profils, le spectre, comme je vous disais, est extrêmement large. Donc c'est un marché qui se porte très bien encore.
Merci beaucoup. On vous laisse à La Rochelle. Il fait beau là.
Comment dire, il fait beau plusieurs fois par jour en ce moment.
Bonne journée.
Merci à vous aussi.
Au revoir.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
Rebonjour les amis, 45e numéro, ça vous concerne, vous avez vu les experts qui vous donnent les conseils, on les retrouve tout à l'heure. Deuxième partie de notre grand témoin du jour qui nous donne les bons conseils pour investir dans l'ancien. Investir dans l'ancien, c'est aussi une marque. Voilà, Lior Pardo, bonjour, merci d'être resté avec nous. On va parler au niveau de l'actualité, la dent creuse de notre époque, Guillaume, c'est les passoires thermiques. Et on est en janvier, donc ça veut dire que c'est interdit maintenant de louer, impropre à la location, les appartements étiquette F et G. Et
justement, c'est ce que va nous réexpliquer Monsieur Lior Pardo. Oui, effectivement, beaucoup de bailleurs, propriétaires, deux passoires thermiques qui vont être contraints de rénover leur logement à compter de cette année pour pouvoir continuer à louer. Quelles sont les règles et le calendrier ?
Alors, il y a un calendrier qui a été mis par l'État jusqu'à 2034 pour réduire les passoires énergétiques. Donc, l'objectif est d'arriver en note D d'ici là. Donc, si vous avez un bien qui est classé en dessous, il va falloir faire des travaux. D'accord. L'objectif, évidemment, c'est d'avoir des biens qui polluent moins. Donc d'avoir des biens qui consomment beaucoup moins. Donc soit vous devez faire des gros travaux, si vous avez un bien qui est mal classé, c'est un bien qui est classé E, ça se trouve vous devez juste changer des fenêtres. On peut prendre un cas concret sur des projets qu'on a pu faire et l'intérêt de le faire. Donc premièrement, l'intérêt d'acheter des biens qui sont mal classés, c'est pouvoir négocier le prix d'acquisition. Donc pouvoir négocier si jamais le bien est mal classé. Et vous allez devoir prévoir une enveloppe travaux. Donc ce qui est important, c'est de savoir combien finalement vous avez dépensé pour cette acquisition et voir si ça reste rentable.
Sur la négo, est-ce qu'on a des indicateurs de pourcentage de négo réaliste ?
Oui, bien sûr. Alors en moyenne, vous avez entre 10 et 15% de négociation sur des biens qui sont des passoires énergétiques.
C'est quoi classé D donc ? Passoire énergétique, c'est ?
C'est FG.
FG. Donc aujourd'hui, ce qui est interdit de louer, c'est quoi à partir du 1er janvier ?
Actuellement, les G, vous ne pouvez plus louer. Ou relouer.
Donc tout ce qui est G.
G, exactement.
En fait, toutes les étiquettes G qui sont en cours de location ne peuvent plus être réindexées, réaugmentées.
C'est ça.
Et tous les nouveaux baux souscrits à partir du 1er janvier 2023 ne peuvent plus être faits si le DPE est en étiquette G.
Exactement.
Mais question, quand vous dites 15%, je prends un exemple, sur un appartement qui vaut 150 000 euros, on peut jusqu'à 30 000 euros de négo.
Alors après, ça dépend d'où on est, évidemment.
D'après l'expérience que vous avez.
En fait, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, c'est la première question qu'ils nous posent, il est classé quelle note ? Donc il y a beaucoup d'acheteurs qui vont mettre de côté. Donc comme il y a beaucoup de gens qui mettent de côté, vous pouvez arriver et dire, moi ça m'intéresse, par contre c'est une décote. Et là, vous pouvez négocier. Donc G, ça fait peur à beaucoup de personnes. Mais en réalité, c'est une opportunité.
Mais oui, bien sûr.
Parce que si vous financez finalement...
Mais les 15% de négo, c'est le financement des travaux.
Exactement. Exactement.
Alors, c'est bon commercialement, ça.
Alors, oui, on va rentrer dans le détail. Donc, j'achète avec une grosse décote. Je dispose d'un certain nombre d'aides après pour faire mes travaux, ma prime rénov.
Tout à fait. Alors voilà, il y a un arsenal d'aides.
Il faut le rappeler.
Il y a des aides locales, hein, les ALEC. Il y a ma prime rénov, ça on connaît bien. Et il y a aussi une stratégie de crédit amortissable avec des banques. Il y a Sofinco qui fait un truc sur les prêts éco-rénovation, le groupe BPCE, Caisse d'épargne. Oui. Quelle est votre stratégie de financement pour vos clients?
Alors effectivement, il y a ma prime rénov qui est utilisée par beaucoup de personnes. Nous, de notre côté, notre stratégie, c'est d'utiliser évidemment le financement bancaire pour pouvoir faire financer cette enveloppe de travaux qui peut être très conséquente. Donc s'il y a un bien qui est mal classé, on va prévoir 1000 euros de travaux par mètre carré. Donc évidemment, il va falloir se faire financer.
1000 euros par mètre carré, oui, c'est vraiment une grosse rénovation.
Donnez-nous un exemple d'une opération que vous avez faite.
Je peux vous donner une opération comme ça, tout à fait. Donc en Ile-de-France, on a acheté un bien pour un client qui voulait faire, un investissement locatif.
Combien ?
Donc c'est un deux pièces qui était très mal classé. Et on a refait entièrement le bien. Donc à 1000 euros du mètre carré.
Et le bien payé combien ?
Donc c'était un 35 mètres carrés, donc 35 000 euros de travaux, et c'était proche de, enfin c'était à Aubervilliers, donc vraiment juste à côté de Paris, à 2 minutes à pied. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a acheté 3 000 euros du mètre.
D'accord.
Le bien.
Ah, ouais. 3 000 euros du mètre, ouais. Alors que d'habitude sur le marché c'est...
On peut acheter à 5 500.
Ouais. Ok, vous vous engagez après pour 1 000 euros avec une grosse décote, donc on a compris, vous vous engagez pour 1 000 euros le mètre carré de travaux.
Tout à fait.
À Aubervilliers.
Ouais.
Vers les 4 chemins.
Financer comment ?
Alors, financer directement par la banque. Donc ça, c'est intéressant. 100% de l'enveloppe de travaux est financé par la banque. Le client a mis 10% d'apport et le reste financé par la banque. Donc finalement, vous avez une grosse décote. Vous remettez le bien au goût du jour. Qu'est-ce qu'on a fait dans le bien ? On a refait les sols. Ça, c'est hyper important. On a refait le plafond. On a fait aussi tout ce qui était ouverture. Évidemment, vous allez gagner directement des lettres directement parce que vous avez des vieilles ouvertures. Il y a l'air qui passe, c'est mal isolé. On a repris l'électricité, ça c'est normal, la plomberie. Et il y a des biens où ça peut être intéressant. C'est pas évident, mais on peut mettre la clim réversible par exemple. Si vous êtes dans le sud, ça c'est hyper intéressant. Et vous avez gagné aussi des notes.
Vous avez fait pour quelques 35 000 euros de travaux financés, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
D'accord.
Et la rentabilité sur ce bien, donc il est avec combien ?
On était de rentabilité dans les 7%
brut.
Oui, tout à fait.
Très bien.
Tout à fait.
Comment vous calculez la rentabilité du coup ? Donc j'ai acheté avec une décote, que je comprenne bien pour le. Ouais. Si je vais faire pareil quoi.
Tout à fait.
Parce que.
Il veut acheter.
J'ai acheté avec une décote.
Voilà. Donc vous achetez avec une.
J'ai financé 35 000. J'aurais pu les financer. Ma prime rénov' aurait pu me permettre de ou les développer des aides de financer ces 35 000 euros de travaux.
Tout à fait. Tout à fait.
D'accord. Et je me retrouve avec un bien qui est plus G, mais qui est quoi ? Donc à la fin.
Alors à la fin, vous allez pouvoir avoir un bien qui est classé à minima D.
D'accord.
Donc vous allez pouvoir, évidemment...
Ça a été le cas, là.
Là, c'était le cas pour
D'accord.
ce bien.
D'accord.
Donc, évidemment,
donc vous avez
nous...
gagné 2 lettres énergétiques, quasiment.
D'accord. On a gagné 3 lettres sur celui-là.
Trois lettres.
FG, ouais. Oui, absolument.
Ce qui est important, évidemment, UFG, c'est de faire un plan d'action. Parce que vous allez acheter un bien qui est mal coté. Même parfois, les banques peuvent refuser un dossier si le bien est déjà loué.
Très juste.
Donc ils vont dire, non, on ne peut pas vous financer. Parce que finalement, vous allez avoir des problèmes après pour louer. Et il y a une enveloppe travaux qui est prévue. Donc, c'est pas prévu dans notre business model. Donc, c'est important de prévoir un plan d'action sur D'accord. tous ces projets. Parce que finalement, vous sortez du champ après de la location et vous ne pouvez plus louer le bien. Donc, c'est important de prévoir dans votre budget, qu'on a prévu en amont, l'enveloppe travaux et qui peut se faire financer par la banque. Évidemment, si vous avez fait un LMNP ou vous avez créé une société, ça peut faire un déficit. Donc, vous allez pouvoir amortir cette partie-là et payer moins d'imposition.
In fine, ce bien qui a gagné 3 lettres par rapport au marché, il est moins cher que le marché ?
Il est moins cher, vous l'avez acheté moins cher et vous avez un bien au goût du jour.
Au goût du jour, mais même avec les travaux, il reste moins cher.
Oui, il reste moins cher.
D'accord.
Donc finalement, c'est une bonne transaction.
Et ça, on peut faire ce genre d'opération un peu partout.
On peut faire ça partout en France.
Alors la question fondamentale qui nous est posée par les particuliers, d'ailleurs même les agents immobiliers, c'est la question des travaux des artisans. le bon choix des travaux des artisans. Vous connaissez l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Souvent, les agents immobiliers font de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage parce que les clients n'ont pas le temps d'être sur le chantier tous les jours, de s'occuper du maçon, du plombier, etc. etc. C'est une tannée. Il faut vraiment avoir passé par là pour le savoir. J'en sais quelque chose quand j'ai rénové, quand j'ai acheté ma maison. Alors, question. Comment vous faites dans ces cas-là? Est-ce que investir dans l'ancien, vous avez une équipe, pour être très concret? Voilà, imaginons que vous avez un internaute qui vous appelle en disant voilà, je voudrais investir et proposez-moi des biens. Est-ce que vous pouvez garantir le suivi in fine et la réception des travaux?
Alors, tout à fait. Nous, on travaille avec des artisans locaux, un peu partout en France. Donc, des artisans qu'on a déjà essayé.
Et c'est vous qui les managez?
Tout à fait.
D'accord. Donc, vous faites de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage?
Tout à fait. Tout à fait. On a mis un set de notes en fonction des délais respectés, évidemment. On se met d'accord sur les prix en amont. Donc dans les...
C'est vous qui les négociez?
Tout à fait. On a déjà négocié les prix.
Vous présentez les devis à votre client?
Tout à fait.
D'accord.
Et c'est important dès le début d'avoir un budget parce que c'est financé par la banque. Donc si vous ne voulez pas avoir des surprises, il faut bien prévoir ces budgets-là. Nous, on a l'expérience et avec ces entrepreneurs, on a déjà fait plusieurs chantiers. Donc on a pu les tester et voir comment ils travaillent. Et ce qui est important, évidemment, c'est la réception des travaux.
D'accord.
Donc de prévoir tout ce qu'ils vont faire et d'avoir un cahier des charges bien détaillé dès le début.
Est-ce qu'il faut que vous viviez, pour gagner votre vie? Comment vous gagnez votre vie dans ces cas-là? Alors, vous prenez un coefficient de valeur sur l'intermédiation, je pense. Est-ce que sur l'AMO, sur la conduite de travaux, vous prenez aussi des honoraires?
Alors, nous, on a des honoraires de transaction, mais sur les travaux, ce n'est pas cette partie-là où on va réellement gagner notre vie. Donc, c'est un service qu'on propose à nos clients. Donc, nous, ça fait partie du package complet, donc recherche du bien, travaux, ameublement, location, gestion.
D'accord. Donc pour nos clients, inclus dans le forfait de gestion.
Tout à fait. Tout à fait.
Si vous me permettez une dernière question en termes de prix, pour que les gens comprennent combien ça coûte, c'est important combien ça coûte.
Bien sûr.
La moyenne des honoraires dans les administrateurs de biens français pour les particuliers, en moyenne, se situe entre 4,5% et 7%.
D'accord.
À combien vous êtes chez Investir dans l'ancien en termes de taux d'honoraires? Sur la gestion, globale.
Oui, bien sûr. Alors, sur la gestion, on a 3,9, donc on est assez compétitif. Et c'est un service totalement digitalisé. Donc, vous allez pouvoir...
3,9 avec la garantie de loyer payé ou pas?
Non.
D'accord.
Mais alors, par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de mettre souvent une garantie visale, qui coûte...
Très bien.
C'est gratuit. C'est gratuit. Finalement, il y a beaucoup de gens qui sont éligibles à cette aide.
D'accord.
Et aussi, il y a des garanties que vous pouvez faire payer des gens par
locataire. Sur la transaction, combien vous prenez d'honoraires?
On a 4%.
Donc 4%, d'accord.
Je reviens sur une question très générale. Je fais mes travaux tout seul, moi aussi. Très bonne question, Sylvain. Ouais. Mais quel conseil? Comment je choisis mes artisans, justement?
C'est vous qui les choisissez?
C'est moi. Alors, je l'ai fait tout seul, parce que si je passe pas par là, je suis obligé de passer par un investisseur.
Vous n'êtes pas obligé, c'est la carte.
Je fais mes travaux, j'investis dans une passoire, comment je choisis mes artisans?
À mon avis, il faut se faire aider, là.
Alors là, c'est très important d'avoir un artisan de confiance, parce qu'on connaît tous des personnes qui ont des plans compliqués,
des galères,
et vous pouvez avoir vraiment des complications. Donc,
est-ce qu'il vaut mieux prendre un architecte? Voilà, ça peut être un architecte.
Il peut avoir évidemment un label RGE pour si jamais vous avez des travaux avec des passeurs et vous voulez avoir des aides, ça c'est important.
D'accord.
Mais le plus important, selon moi, c'est d'être accompagné par un artisan de confiance. Donc, soit vous avez des personnes dans votre entourage qui ont eu des expériences avec ces artisans, donc des recommandations, c'est hyper important, ou bien de passer par une entreprise qui vous aide pour ce projet.
Les avis vérifiés, vous avez raison,
c'est hyper important.
On l'a vu, c'est sans appel, vous avez absolument raison. Les avis vérifiés, les amis, vous allez sur Google, etc., les avis sont vraiment vérifiés, et je confirme, c'est un tiers de confiance. Donc ça, c'est hyper important. Et faire plusieurs devis,
hyper important de comparer.
Et surtout, ne pensez pas que le moins cher, c'est le meilleur.
Et on rappellera,
on rappellera que
l'ANA, depuis cette année, développe un accompagnateur rénov.
Le décret est passé, Guillaume?
Ou en tout cas, il va être en cours.
D'accord. Et vous avez des locataires aussi.
Si on lève des aides, notamment, on en parlait tout à l'heure.
Mon accompagnateur rénov.
Vous avez aussi des locataires donc, par l'ANA, donc, qui s'engagent à louer votre bien sur plusieurs années et qui vont faire attention à votre bien finalement.
Ouais, bien sûr.
Ils vont le rénover, donc ça c'est aussi un système intéressant.
Alors, on s'est permis, parce qu'effectivement chaque mois on envoie nos caméras sur le terrain pour interroger les Français, leur demander ce qu'ils pensent, est-ce qu'ils investiraient dans l'ancien, ou de temps en temps on interpelle les experts aussi. Je vais vous proposer de regarder un reportage. C'est vous qui l'avez fait. Vous avez interviewé notre ami Franck Vigneault.
Oui, on fait un petit écart, on arrête de parler de l'ancien, on parle du neuf. Ouais. Il y a des changements aussi en 2023 sur le neuf. On va écouter. Et puis, un marché complexe.
Puis tout ce qui va changer, et surtout qu'en ce moment, effectivement, ils ne sont pas à la noce en ce moment, les promoteurs. On va écouter le reportage, on réagira après.
Les règles ont changé pour investir dans le neuf, et notamment le Pinel, à partir de cette année, avec ce qu'on appelle le Pinel Plus. Qu'est-ce qui change concrètement ?
Le Pinel, tel qu'on le connaissait, bénéficie à partir de 2023, donc de taux de réduction d'impôts qui sont dégradés. Donc on n'est plus à 12, 18, 21%, mais on perd un point et demi à peu près pour chaque période, donc de 6, 9 ou 12 ans. Le Pinel continue d'exister, mais il y a un deuxième Pinel, ce qu'on appelle le Pinel Plus, qui lui a été mis en place depuis le 1er janvier 2023. Donc les règles sont un petit peu différentes. Le Pinel tel qu'on connaît n'évolue pas, toujours un système de zonage, de plafonnement de prix, de loyer, etc. Le Pinel Plus, lui, permet de conserver les taux de réduction d'impôts dont on bénéficie jusqu'ici, mais à plusieurs conditions. Il y a une première condition indispensable, le logement doit respecter ce qu'on appelle les normes de confort. Alors il y a trois types de normes. La première, c'est une question de surface habitable. Il y a des surfaces habitables minimales à respecter, à raison de 28 mètres carrés pour un T1, 45 mètres carrés pour un T2, 62 mètres carrés pour un T3, 79 mètres carrés pour un T4 et même 96 mètres carrés pour un T5, même si quand même le T5 est plutôt rare en investissement Pinel. Deuxième condition, chaque logement doit disposer d'un espace extérieur. Alors par espace extérieur, on entend un jardin ou un balcon. Là aussi, il y a des surfaces minimales à respecter, 3 mètres carrés pour un T1 ou un T2, 5 mètres carrés pour un T3, 7 mètres carrés pour un T4 et 9 mètres carrés pour un T5. La dernière condition, alors elle ne concerne que les grands logements à partir du T3, ces logements-là doivent avoir des ouvertures sur au moins deux façades d'exposition différentes. Donc pas forcément des logements traversants, mais un logement en angle peut très bien satisfaire à ces conditions. Après, il y a deux questions qu'il faut se poser. La première, c'est l'emplacement. Et la deuxième, c'est la date de dépôt du permis de construire. L'emplacement, si le bien est situé dans le périmètre d'un quartier prioritaire de la politique de la ville, ou quartier prioritaire, donc là, la seule condition à respecter, ce sont ces normes de confort. Il n'y a pas d'autres conditions. Alors, rappelons-le, il y a environ 1300 quartiers prioritaires en France. Généralement, ce sont des quartiers où l'habitat est un peu dégradé, où on va avoir des concentrations de logements sociaux, un manque de mixité sociale généralement. Donc, pas forcément les endroits les plus attractifs, que ce soit pour les investisseurs ou pour les locataires. Donc, quand même des territoires un petit peu en devenir, comme on dit pudiquement, mais pas forcément les plus opportuns pour investir. Si on est en dehors de ces quartiers, alors là, attention à la date de dépôt de permis. Si le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2022, donc c'est-à-dire avant l'année dernière, et si vous actez en 2023 ou 2024 pour le Pinel Plus, il faut que le logement réponde au label E+, C-. E+, donc énergie positive, C-, réduction carbone, et qu'en plus, il bénéficie d'un diagnostic de performance énergétique de classe A. Alors, petite précision, E+, C-, c'est uniquement si vous êtes énergie 3 ou 4, et carbone 1 ou 2 indifféremment. Si le permis a été déposé après le 1er janvier 2022, alors là, il faut que le logement réponde au label, enfin, au niveau de performance, réglementation énergétique 2020, la RE 2020, mais attention, niveau 2025, donc c'est supérieur au niveau actuel qui est exigé pour les logements. Ça, c'est si vous actez en 2023. Et si vous actez l'année prochaine, RE 2020, trajectoire 2025, avec en plus un diagnostic de performance énergétique de classe 1.
Alors néanmoins, on connaît une vraie crise du logement neuf depuis un an. Quelles sont les difficultés pour trouver un logement neuf aujourd'hui et à quel prix peut-on trouver un logement ?
Alors la première difficulté, effectivement, si on veut faire un investissement de type Pinel Plus, ça va être de trouver le logement qui répond à toutes ces normes, toutes ces conditions. Donc le plus simple, je pense, en tout cas dans l'immédiat, c'est plutôt de s'orienter vers un Pinel classique, qui de toute façon reste intéressant. Les prix ont beaucoup augmenté dans le neuf l'année dernière avec des phénomènes d'inflation. On a une raréfaction de l'offre, hein. On a effectivement un décrochage entre le nombre d'autorisations et ceux qui sortent réellement de terre, le nombre de mises en chantier. Ça, c'est lié à des décalages d'opérations suite à des révisions de coûts, etc. Donc oui, le marché est assez tendu aujourd'hui, il va se tendre encore davantage. Les prix dans le neuf ne baisseront pas, clairement, parce qu'il n'y a rien aujourd'hui qui justifie une baisse des prix, au contraire. Donc, le conseil, aujourd'hui, si vous trouvez un bien, allez-y. Pourquoi ? Parce que, un, les prix vont continuer à augmenter dans les prochains mois, dans le neuf. Et deux, les conditions d'octroi de crédit ne vont pas s'arranger avec une remontée progressive des taux. C'est très difficile aujourd'hui d'obtenir un prêt, donc allez-y, foncez, en tout cas, si vous voulez investir dans le neuf, c'est plus que jamais le moment.
Pour finir, quels sont les quelques conseils de base que vous donnez à un investisseur qui cherche à investir, notamment dans le neuf ?
Alors, les conseils classiques, évidemment, l'emplacement. Alors même si aujourd'hui, avec le zonage Pinel, on est quand même plutôt sur des zones tendues où il y a des besoins avérés de logement. Donc vérifier qu'on est sur un marché qui a du sens. Attention au loyer, ne pas être trop gourmand. Il vaut mieux peut-être perdre 10-20 euros par mois et éviter des vacances locatives. Et surtout, essayer d'acheter au bon prix. Ça, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui, pour, notamment dans le neuf, pour se référer à des choses comparables, parce que souvent, on fait le match entre les prix de l'ancien et le prix du neuf. N'oublions pas qu'aujourd'hui, il y a la notion de valeur verte qui va devenir de plus en plus importante dans le prix du logement. Et donc, par définition, les logements les plus anciens vont voir leur valeur se dégrader. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les passoires énergétiques. Donc, c'est normal que le neuf soit plus cher que l'ancien, mais essayez de faire attention que votre prix soit au moins à minima dans les prix du marché.
Merci beaucoup pour ces éclairages. Effectivement, donc, stratégie, vous avez vu, d'investissement dans l'ancien, mais aussi d'investissement dans le neuf avec Franck Vigneux. On était ravis de vous recevoir, Lior Pardo.
Merci beaucoup.
Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Investir dans l'ancien, https://investirdanslancien.fr. Voilà. Et je vais demander à nos amis de la technique de mettre l'URL de votre belle maison sur le podcast, comme ça les gens pourront aller directement en vous écoutant voir ce que vous faites. Et on enchaîne tout de suite maintenant, effectivement, avec la suite de notre programme et longue vie à investir dans l'ancien.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
Rebonjour les amis, 45e numéro, ça vous concerne, deuxième partie, le moment très attendu de voir nos experts, toujours accompagnés de l'ami Vincent. Ça
oui,
va Vincent,
ça
toujours.
Ça va très bien, très toujours. Très bien.
On a un agent immobilier aujourd'hui.
Tout à fait, Michael Benchabat qui est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans le grand rendez-vous de l'immobilier, meilleurbien.com. Des questions pour vous de nos auditeurs et auditrices sur le groupe Facebook, le Club des Proprios. Loïc a signé une offre d'achat par l'intermédiaire d'un agent immobilier. Cette offre d'achat a été acceptée par le vendeur. Notre acheteur a depuis changé d'avis. Est-ce qu'il peut se rétracter? C'est sa question. Qui fait bien, ah, Guillaume.
Ça arrive, hein.
Ça arrive.
Ça arrive.
Souvent même.
Oui, malheureusement, ça arrive assez souvent. Et oui, Loïc va pouvoir se rétracter. Mmh. Il va pouvoir changer d'avis. Assez simplement, surtout s'il a juste signé une offre d'achat, même si elle est acceptée par le vendeur, il va pouvoir changer d'avis, tout simplement. Voilà, c'est, il a le droit de son côté, Loïc, en tant qu'acheteur.
Sans pénalité.
Et sans pénalité, et sans délai.
En ayant fait simplement une offre, il n'y a aucun délai. En revanche, s'il avait signé déjà un compromis de vente, il a 10 jours pour se rétracter sans aucun motif.
Et au-delà.
Au-delà, il a en fait, il aurait fallu qu'il ait un refus de prêt pour qu'il puisse se rétracter. Et au-delà, s'il change d'avis, c'est ce qu'on appelle un peu la clause du caprice, eh bien, il doit 10% au vendeur.
Bon, bravo. Là, dans le cadre de Loïc, en tout cas, juste sur une offre d'achat, il est tranquille. Il peut encore se mettre
complètement.
Deuxième question, Jacqueline, maintenant, elle nous envoie cette question. Les locataires de Jacqueline, qui devaient partir le 2 janvier, demandent s'ils peuvent prolonger le bail d'un mois. Les travaux prévus chez eux ont pris du retard. Que peut faire Jacqueline dans une pareille situation? Elle comptait récupérer son bien au 2 janvier.
Alors, il y a deux options. Soit, en fait, elle décide d'aller sur le volet juridique, assigner en référé son locataire. Le temps de le faire sortir, ça va prendre des mois. Mmh. Donc, je pense que Jacqueline a tout intérêt à aller plutôt sur un volet amiable et accepter la demande de son locataire de décaler d'un mois. Encore une fois, le locataire est surprotégé, tout comme l'acheteur dont on vient de parler. Le droit français surcouvre les locataires et les acquéreurs.
Ça veut dire que Jacqueline, à cet endroit-là, si elle s'engage dans une procédure, c'est trop long, donc vaut mieux qu'elle prolonge le bail par une sorte d'avenant juridique.
On peut faire un avenant au bail, comme ça.
Oui, oui, tout simplement en disant « Ok, on le prolonge d'un mois, et puis voilà, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire sans rentrer dans une partie, juridique avec des frais d'avocat, etc. Et puis surtout, ça prendrait beaucoup plus qu'un mois. »
Merci beaucoup pour vos réponses. Merci à vous. Michael Benchabat, on vous retrouve sur meilleurbien.com avec toutes vos équipes. C'est la bonne adresse si vous cherchez un agent.
Voilà, absolument, un agent. Et puis surtout, on vous a mis une particularité, c'est que vous êtes agent mandataire. C'est-à-dire que vous êtes une centrale de réservation généralisée. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une plateforme, hein, c'est ça, vous fournissez des services aux mandataires immobiliers. Vous couvrez tout le territoire, il me semble.
Oui, on est présent sur plus de 80 départements en France et dans les DOM-TOM, et on a environ 425 agents en France actuellement.
Voilà, donc le bon réflexe, c'est meilleurbien.com. Vous l'avez compris, merci Michael Benchabat, et on se retrouve tout de suite après.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency.
Eh bien voilà, c'est la fin de ce 45e numéro de janvier 2023. Merci d'avoir suivi encore une fois, et c'est grâce à vous que nous sommes là maintenant depuis plus de 4 ans. N'est-ce pas Guillaume, et toujours avec nos experts.
Oui, on se retrouve, chers auditeurs, le mois prochain, 17 février. D'ici là, posez vos questions sur le club des proprios et on y répondra.
Et bien sûr, comme d'habitude, le podcast est disponible sur les plateformes qui vont bien, sur Capital et sur Radio Immo, mais pas que. N'hésitez pas encore une fois à nous poser toutes les questions et on se retrouve le mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous.
Le grand rendez-vous de l'immobilier, en partenariat avec Orpi. 1350 agences immobilières partout, rien que pour vous. À retrouver sur les sites de Radio Immo et Capital.